Bonjour Fabrice Drouel et bonjour à tous. Aujourd'hui, les réseaux dans la résistance. On ne s'appuie que sur ce qui résiste. Sénèque. D'histoire. Ils étaient de gauche ou de droite, ouvriers, paysans ou bourgeois. Certains croyaient au ciel et d'autres n'y croyaient pas, mais ils avaient en commun le même idéal. Pendant plus de 4 ans, refusant l'armistice de 1940, ils ont pris des risques insensés pour chasser de France les troupes d'occupation allemandes. Les uns dans des mouvements de résistance comme Combat, Libération ou Franc-Tireur, les autres dans ce qu'on appelait des réseaux qui avaient des objectifs militaires, le renseignement, le sabotage, les liaisons avec l'Angleterre, les parachutages et l'évasion des prisonniers de guerre. Ils appartenaient à cette armée des ombres, comme l'a appelé Joseph Kessel, et qui, dans la clandestinité, a largement contribué à la défaite de l'Allemagne, à la libération de la France et à la lutte à laquelle les appelait un général de brigade encore à peine connu en juin 1940.
Beaucoup de Français n'acceptent pas la capitulation ni la servitude pour des raisons qui s'appellent l'honneur, le bon sens, l'intérêt supérieur de la patrie. Moi, général de Gaulle, j'invite tous les Français qui veulent rester libres à m'écouter et à me suivre. Vive la France, libre dans l'honneur et dans l'indépendance.
Rémi Coffert, bonjour.
Bonjour.
C'était le général de Gaulle en juin 40 et les débuts d'une résistance dont on a souvent du mal à raconter l'histoire. D'abord parce que, par définition, elle était clandestine et ensuite parce qu'elle regroupait des réalités tellement différentes que plutôt que de parler de la résistance, on devrait dire plutôt les résistances. Et parmi elles, deux types d'organisations de résistance, ce qu'on appelait les mouvements. Et puis il y avait les réseaux. Dans votre dernier livre, vous parlez d'un réseau imaginaire, le réseau Bucéphale. C'est un roman, mais qui se fonde sur une réalité, sur la réalité de ce qu'étaient ces réseaux. Mais avant d'en parler, j'aimerais que vous nous rappeliez justement la différence entre mouvement et réseau, Rémi Coffert.
Alors, la différence entre mouvement et réseau, les mouvements, ce sont des grandes structures généralistes à vocation politique, mais aussi militaire, puisqu'ils secréteront des ailes militaires. Les réseaux, ce sont des structures spécialisées, beaucoup moins nombreuses, et qui ont vocation, par exemple, comme mon réseau Bucéphale, à faire du renseignement, ou à faire de l'action, du sabotage, ou les filières d'évasion. Vous voyez, ce sont des structures beaucoup plus spécialisées et de taille beaucoup plus restreinte, c'est-à-dire quelques centaines, au maximum 1500 personnes, alors que les mouvements ont regroupé beaucoup plus de monde.
Et dans les réseaux aussi, on ne parle pas, on ne fait pas de politique, et pourtant, d'ailleurs, on le comprend très vite dans votre livre aussi, dans ce roman, le réseau Bucéphale, mais c'était vrai dans l'ensemble des réseaux, les membres sont d'origine politique, sociale, de conviction religieuse ou d'absence de conviction religieuse, enfin, ils sont très différents. Ce qui frappe, d'ailleurs, c'était vrai aussi pour les mouvements, c'est la variété du recrutement.
Ah ben c'est impressionnant, hein. Ça c'est le miracle de la résistance, c'est-à-dire que des Français qui éventuellement se seraient détestés dans les années 30, se seraient haïs, parce qu'ils étaient de bords politiques opposés, se reconnaissent de manière presque immédiate, sympathisent, et je dois dire que pour avoir beaucoup travaillé sur les questions de résistance, les amitiés de résistance, c'est dur comme du roc.
Mmh. Et ça va au-delà des clivages politiques.
Oh, tout à fait. C'est des gens se rendent compte, tout simplement, je vous dis, qu'ils se seraient passés à tabac, pour ne pas dire plus, 5 ans auparavant, et ils se demandent, mais pourquoi? D'ailleurs, j'ai deux personnages, à un moment, deux femmes qui se disent, mais on se serait haïs avant la guerre, pourquoi?
Il y avait des sympathisants du Front Populaire, il y avait des communistes, il y avait aussi un ancien cagoulard d'extrême droite qui était Loustano Lacaux du réseau Alliance.
Oui, tout à fait, qui a été suppléé après quand il est tombé par Marie-Madeleine Fourcade. Il y a effectivement des gens qui venaient de l'extrême droite cagoulard, des gens qui venaient de l'extrême gauche communiste, des gens qui avaient été Front Popu, des gens qui avaient été anti-Front Popu. C'est une disparité et au fond, c'est une miniature de la France, si vous voulez, parce que vous avez toute la France, mais disons en plus petit.
Toute la France et tous les sexes, parce qu'il y avait des hommes, mais vous en avez mentionné une, mais il y en a eu d'autres, des femmes, hein, comme Germaine Tillion, membre d'un des tout premiers réseaux de résistance, un réseau d'évasion, le réseau du Musée de l'Homme.
En réalité, le réseau Musée de l'Homme a commencé, comme n'importe quelle rivière, par une multitude de sources. Nous avions, nous, organisé d'abord des étapes, il fallait loger les prisonniers. Il fallait les nourrir, il fallait leur faire des faux papiers, il fallait leur trouver un passage sur la zone de démarcation. Alors tout ça, c'était ce qu'on appelle vraiment une filière. Telle source, elle a une ligne d'évasion, mais ensuite elle ne sait pas quoi faire de ses prisonniers. Telle autre, elle a une filière, bon, mais elle prend les prisonniers qui arrivent. Alors il faut rebrancher tout ça, c'est ce qu'on appelle un réseau.
Combien de gens avez-vous en tout embarqué pour Gibraltar ?
Et deux officiers canadiens du commando de Dieppe, trois nouveaux gars de la RAF tombés en parachute, et deux Belges condamnés à mort par les Allemands.
Alors ?
Le pêcheur vous attendra à partir de minuit. Il a un grand bateau, il peut emmener tout le monde dans un seul voyage. Madeleine, la fille de la maison, vous conduira à l'endroit, à travers champs pour éviter les rondes.
Très bien.
C'est un extrait du film L'Armée des Ombres de Melville avec Lino Ventura dont on a reconnu la voix, Rémi Koffer. Alors les évasions, c'était une des activités des réseaux, c'était même l'activité des tout premiers réseaux. Tout à l'heure, on a entendu Germaine Tillion qui en était membre, parler du réseau du Musée de l'Homme.
Qui est démantelé dès 41, qui commence donc à fonctionner très tôt, dès 40, et qui est démantelé en 41, réseau qui comprenait en effet beaucoup de femmes. D'ailleurs, les réseaux comprennent souvent beaucoup de femmes.
Le Musée de l'Homme, il faut le rappeler, c'est parce que son fondateur était un ethnologue, qui était Boris Vidé, et il manquait totalement d'expérience, c'est pour ça qu'ils se sont fait arrêter. Germaine Tillion a été déportée de Ravensbrück.
C'est un réseau d'intellectuels, de jeunes intellectuels qui décident de travailler. Tout le monde travaille par capillarité dans la résistance. Pour être plus clair, c'est l'occasion qui fait le larron. Vous rencontrez machin. Un copain d'enfance, etc. Vous sondez ses opinions, vous apercevez que lui aussi aime pas les Allemands, que lui aussi aime pas Vichy, etc. Passez-moi l'expression, au bout d'un certain temps, vous lui proposez la botte. Le temps peut être très court, parfois. Vous rencontrez un tel qui dispose d'une maison isolée, qui dispose de quelque chose, qui a un cousin, qui peut-être permettre de franchir, vous savez, cette ligne de démarcation qui divisait la France entre zones dites non occupées et zones directement occupées par les Allemands. Vous sautez sur l'occasion. Vous proposez, et c'est ainsi, comme l'expliquait Germaine Tillion, que se créent effectivement les réseaux.
Alors, il y aura d'autres après le réseau du Musée de l'Homme, le réseau Patolliri, le réseau Shelburne.
Alors, la ligne Patolliri, c'était un médecin belge qui s'appelait Albert Guéris, qui dirigeait cette ligne, qui était une filière d'évasion, surtout pour les aviateurs à Lyon. On en parlait tout à l'heure dans le film L'Armée des Ombres, là. C'était important, effectivement, de faire retourner particulièrement les pilotes, parce que les Anglais et les Américains, par la suite, manquaient cruellement de pilotes. Alors, c'était très important, si j'ose dire, de leur retourner leurs pilotes prisonniers. Vous voyez ça, d'ailleurs, dans...
Les pilotes, tout simplement, parachutés avant qu'ils soient pris... refuge.
Vous voyez ça, tout le monde se rappelle, de la Grande Vadrouille, d'ailleurs.
Oui, exactement. Alors, justement, ces évadés de France, comme on les appelait, c'était pas forcément des prisonniers de guerre, on les appelait, d'ailleurs, des colis, je crois. C'est comme ça que les membres des réseaux, les résistants, surnommaient leurs colis. Il y avait aussi des agents brûlés, des agents de la résistance qui devaient absolument partir parce qu'ils étaient reconnus, des volontaires aussi très importants pour la France libre, des réfugiés menacés par des persécutions, et puis alors des filières différentes. Il y avait, quelles étaient les routes par lesquelles on faisait évader ces gens-là?
Alors,
les colis, comme on disait.
Voilà, alors les colis, tant que la zone sud de la France a été non occupée, c'est-à-dire sous la domination de Vichy mais pas directement des Allemands, on a pu utiliser les côtes. Quand les Allemands sont arrivés à la fin 42, ça a été beaucoup plus difficile, donc les côtes méditerranéennes, pour l'Afrique du Nord. Les autres filières passaient évidemment par l'Espagne. Alors il fallait avoir des passeurs. Et puis en Espagne, une fois qu'on était en Espagne, on aboutissait souvent dans les tôles de Franco et on y restait souvent assez longtemps. Et puis les autres filières pour sortir, c'était ce que j'ai mis en couverture de ce livre, ces petits avions qui atterrissaient la nuit, les Lysander, qui est un petit avion qui atterrissait sur 200 mètres, donc c'est un vrai miracle. Donc qui pouvait emporter 2 voire 3 passagers. Il y en avait qui descendaient, d'autres qui montaient. Le courrier, ils emportaient également le courrier. Ils franchissaient la Manche. Et puis, il y avait également des bateaux. Je raconte assez en détail ce qu'on appelait une opération maritime. Vous savez, il y avait toute une flottille de la Royal Navy. Il y avait toute une flottille, la flottille N51, qui était composée de bateaux. Pour donner une image, le haut, c'est un chalutier. Et sous la ligne de flottaison, elle était hors bord. C'est très puissant, ça peut aller très vite, etc. Il y avait quand même une infrastructure.
Et tout ça grâce à ces réseaux d'évasion très cloisonnés pour des raisons de sécurité, on s'en doute, et sans rapport d'ailleurs avec d'autres types de réseaux, comme le réseau de renseignement Alliance, auquel appartenait une autre femme, une grande résistante, Marie-Madeleine Fourcade, qui m'avait raconté en 1990 les activités de son organisation.
Nous avons choisi d'être un réseau indépendant, travaillant en France, et commençant par ce qui était le plus nécessaire à l'époque, le renseignement. Il s'agissait que de savoir où était l'ennemi et comment on pouvait communiquer les renseignements à ceux qui les utiliseraient pour lui faire la guerre. Grâce au poste émetteur, nous pouvions, dans l'heure ou dans la journée, envoyer l'urgence. C'est-à-dire que quand un sous-marin allait quitter Brest dans les 24 heures, les Anglais savaient tout de suite.
Capitaine Ferdi Rodriguez, de l'Intelligence Service.
C'est, à mon avis, l'arme secrète, mais la plus dangereuse, parce que vous vous faites radiogoniométrer très facilement. Ouais, je pensais toujours qu'il y avait deux façons d'être arrêté en France, soit par délation, soit d'être radiogoniométré par les services allemands, qui étaient des services extrêmement perfectionnés. Et les instructions en Angleterre étaient justement de faire des émissions extrêmement courtes et variées en tant que longueur d'onde.
Qu'est-ce que c'est ?
Les voitures de goniométrie vont repérer la radio. Foncez, foncez, foncez ! Où est la radio ? Les Allemands sont là.
Dans le grenier, tout là-haut.
Merci. C'est la première transmission ?
La cinquième, en 3 jours.
Vous avez de la chance.
Je ne savais pas qu'ils avaient du matériel aussi perfectionné.
Et bien maintenant, vous le savez.
Un extrait du téléfilm d'Yves Boisset, Jean Moulin, dont effectivement les radios ont failli se faire arrêter plusieurs fois. C'était l'activité la plus dangereuse dans ces réseaux, Rémy Kofer, être le radio. C'était...
Oui, on donnait à Londres, on donnait une durée de vie statistique de 6 mois. C'est-à-dire qu'au bout de 6 mois, vous théoriquement, vous faisiez prendre. Donc, il fallait avoir vraiment le cœur bien accroché pour faire ce travail. Alors, la radio Gogno dont on parle, c'est un système très simple. Vous avez trois station réceptrice allemande, c'est une triangulation, et si vous voulez, chacune repère sur quelle ligne, quelle est la ligne, si vous voulez, sur laquelle le message est émis. Donc on trace des traits à la règle, et quand les trois traits se recoupent, on sait que c'est à peu près dans cette zone, dans ce quartier, que se trouve l'appareil radio. Alors à partir de là, on va opérer plus finement pour repérer exactement dans quelle maison il est. Par exemple, il y a des petites combines, on coupe le courant dans le secteur. Alors l'émission s'arrête immédiatement, mais on sait de quelle maison on a coupé le courant, des choses de ce genre, et on finit par repérer l'endroit où se trouve la radio.
D'où la nécessité pour les radios d'être très brefs. Oh, c'était difficile parce que souvent il y avait beaucoup de messages, il fallait attendre les réponses de Londres, etc. C'est en ça que c'était dangereux. Et pour transmettre des renseignements qui étaient vitaux, très importants, souvent. De quel type de renseignements s'agissait-il dans les réseaux de renseignements ? Qu'est-ce qu'ils donnaient aux alliés ?
Alors,
qu'est-ce qu'ils envoyaient ?
Ça dépend un peu des périodes. Après le débarquement, la nature des messages a changé dans la mesure où c'était de plus en plus à utilisation rapide. Mais si vous voulez, ça donnait. On disait, il y a 6 Messerschmitt 110 sur l'aéroport de Francazal, il y a 3 bateaux, il y a tel navire allemand qui est dans une cale en cale sèche dans une forme à Saint-Nazaire. C'est ce genre de choses.
Les départs de sous-marins, les départs de bâtiments de guerre. Je crois que le Bismarck a été coulé écoulé grâce à des renseignements venus de France, Rémy Koffer.
Il a été écoulé en partie. On a su ses déplacements, les déplacements de Graf Spee, c'est-à-dire de ce que les Allemands appelaient des cuirassés de poche, qui étaient en fait de très gros cuirassés, en partie parce qu'évidemment il partait de France. Donc les réseaux implantés dans les ports, d'où l'intérêt d'avoir des inscrits maritimes, des gens comme ça dans votre réseau, permettait de donner une image, des renseignements très précis quant à leur mouvement.
Puis
les trains aussi. Les trains, les AWI par exemple, c'est-à-dire les transports économiques, savoir quel type de wagons, combien de wagons à telle heure, sur tel parcours et ainsi de suite.
Alors c'était extrêmement structuré ces réseaux, il y avait une centrale, il y avait des tas de corporations si je puis dire, il y avait des secrétaires, des fabricants de faux papiers, des radios, on en a parlé, et puis trois types d'agents assez différents hein, selon leurs activités.
Oui, bien sûr.
Il y avait les permanents.
Alors, il y a O, c'est-à-dire ce qu'on appelle l'agent occasionnel. O, c'est quelqu'un qui rend service à la résistance de temps en temps, quelqu'un qui prête un logement, quelqu'un qui porte des messages, quelqu'un qui porte des renseignements. Il y avait ensuite P1. Alors P1, c'est quand vous consacrez la majorité de votre temps à la résistance, mais vous avez encore votre métier ou votre fonction habituelle. Et puis P2, en gros, c'est que vous êtes grillé ou que vous êtes un grand chef, et à ce moment-là, vous êtes complètement permanent, vous consacrez tout votre temps à la résistance, et il faut que la dite résistance subviennent à vos besoins, ne serait-ce que par peur que simplement vous soyez retourné, vous soyez obligé de vendre la mèche parce que vous crevez de faim. Alors justement,
il faut subvenir aux besoins des permanents. Qui y subvient ? Parce que effectivement, il y avait plusieurs sources. Il dépendait de plusieurs commandements, si je puis dire, Rémy Koffer. Et il y en avait une, par exemple, c'était le cas du réseau Alliance de Marie-Madeleine Fourcade, de Loustalot-Lacau, qui dépendait directement des Anglais.
Hein. Il dépendait, oui, du commandeur Crane. C'est de son vrai nom Kuhn, qui était un officier du SIS, Secret Intelligence Service, c'est-à-dire de l'intelligence service. Mmh. Tout à fait, oui. Mais d'autres...
Il y avait quelqu'un aussi qui a compté pour beaucoup, c'était le colonel anglais Buckmaster.
Alors, Maurice Buckmaster, c'est un peu différent. Ce sont des réseaux du SOI qui sont des réseaux tournés vers l'action et le sabotage. Le SIS, c'est l'intelligence service, donc qui sont dans le renseignement. Et puis, il y avait les réseaux qui dépendaient des Français de Londres, qui dépendaient du Bureau central de renseignement et d'action, qui est le service secret du général de Gaulle, le CRA. Et puis, quand les forces françaises se sont installées à Alger, eh bien, il y a eu les réseaux dépendants. Bon, là, il y a eu un peu de tirage parce qu'il y avait la querelle Giraud de Gaulle, mais enfin, il y avait un certain nombre de réseaux de plus en plus importants qui étaient contrôlés par... des Français.
Et à ce moment-là, le BCRA, il faut le rappeler, était dont le patron était le colonel de Vavrin, dit Passy. Hein,
dit Passy, oui, on n'est pas loin ici de la station de métro Passy, tout à fait.
Il y avait souvent des noms de stations de métro, d'ailleurs.
Oui, mais les premiers Français de Londres se sont donné des noms de stations de métro.
Les Corvisart.
Corvisart, Barbès, etc. Oui, tout à fait.
Et alors, justement, ces réseaux qui dépendaient alors de la France libre, du BCRA, bon, francitien aussi, peut-être le plus connu, qui était la confrérie Notre-Dame. De Gilbert Renaud, dit comme Rémy qui a joué un grand rôle. Évidemment, il y avait quand même des conflits entre les services de renseignement selon qu'ils étaient les patrons de réseaux français mais travaillant pour l'intelligence service ou de réseaux français travaillant pour le BCRA. Il y a eu des conflits, je suppose.
Il y avait des conflits entre la France libre et les Anglais. La France libre dépendant pour une majeure partie de son infrastructure des Anglais, mais essayant d'avoir le maximum d'autonomie. Et les Anglais essayant de récupérer le maximum d'agents. Par exemple, je raconte ça dans le bouquin, ce qui se passe, vous savez, quand vous passez de France en Angleterre, vous êtes d'abord interné dans la banlieue de Londres, à Patriotic School, qui est une école qui a été reconvertie, et là ce sont les services de contre-espionnage anglais qui vous passent au crible pendant des heures avant de décider que vous êtes clean et que vous pouvez faire ce que vous voulez. Mais ce que vous voulez, dans l'intervalle, naturellement, ils ont toujours proposé aussi la botte, c'est-à-dire passer au service des Anglais. D'où de nombreux conflits, parce qu'il y a des résistants nombreux qui arrivent à Londres, on leur dit mais ça serait bien de travailler pour nous, puis c'est mieux, puis on a plus de moyens, puis c'est plus efficace. Et bon, beaucoup disent non, je ne veux travailler que pour la France avec des Français, ou pour la Belgique avec des Belges, et ainsi de suite.
Alors le BCRA et l'Intelligence Service quand même se retrouvaient quelque part, c'était sur les ondes, en envoyant de Londres des messages codés destinés au réseau et que les services allemands essayaient en vain de brouiller.
Ici, Londres. c'est tout d'abord quelques messages personnels.
Les girafes ne portent pas de faux col. Clémentine peut se curer les dents. Andromaque se parfume la lavande. Le facteur s'est endormi.
Ces messages personnels que la BBC diffusait tous les soirs pendant la guerre ont longtemps intrigué les Français qui en cherchaient vainement les clés. Mais je vais demander au colonel Buckmaster, un des chefs des services britanniques, de le préciser une fois de plus.
Ah, ces fameux messages personnels. Alors je vais vous l'expliquer, c'est très simple. Ils n'avaient pas de sens à soi. C'était des messages qui étaient arrangés avant le départ de nos officiers. Et nous sommes arrangés avec lui que quand il entendait ce message-là, ce soir-là, il y aurait un parachutage, ou bien on se servait des messages pour annoncer l'arrivée de quelqu'un et pour faire du sabotage des usines qui travaillaient pour les Allemands.
C'était le colonel Buckmaster au micro d'André Gillois en 1973, alors qu'il parle d'une autre activité qu'on n'a pas encore évoquée. Vous en avez dit un mot, mais je voudrais que vous précisiez, Rémy Koffer, c'est l'action. Ce sont les sabotages, effectivement, et qui ont joué un rôle de plus en plus important au fur et à mesure que la guerre avançait.
Bien entendu. Et c'était, en effet, la spécialité du service que dirigeait le major Buckmaster, qui était le Special Operations Executive, SOE, pour lequel travaillaient de nombreux Français ou de nombreux résistants des pays européens. Alors là, c'est le sabotage des usines, le sabotage des voies ferrées à certains endroits, le sabotage des installations, des gares, des aéroports, etc. Donc, cette activité de sabotage était dirigée depuis Londres, parce que Londres avait un espèce de plan stratégique en tête des installations à saboter. Et ce plan stratégique, c'était le résumé des renseignements que recueillait Londres sur comment était organisée la présence allemande en France, où, quand, comment, etc.
Puis il y avait aussi l'envoi, évidemment, des armes vers les maquis. Ce sera très, très important, évidemment, en 1944, le repérage des terrains. En tout cas, des sabotages qui mettaient en rage les Allemands, le gouvernement de Vichy et son ministre de la Propagande, Philippe Henriot.
Près de Chalon-sur-Saône, un train de marchandises a déraillé à la suite d'un acte de sabotage commis par un groupe terroriste. Le rapide de Nice, survenant à vive allure quelques instants plus tard, sortait des rails. On compte 39 morts.
Je ne cesse de vous répéter que la France est régulièrement la seule victime d'une folie de destruction à laquelle tant de Français ont longtemps applaudi. Quand un sabotage fait sauter un transformateur, coupe un câble transporteur d'énergie, ce sont les ouvriers français qui chauffent, ce sont les ménagères françaises qui manquent d'électricité, ce sont les artisans français qui voient s'arrêter leurs outils. Et quand ces jours-ci, tournant votre commutateur, aucune lumière n'apparaîtra, quand votre poste de radio demeurera silencieux, quand vous voudrez pour un rapide repas allumer votre réchaud électrique et qu'il refusera de rougeoyer, revoyez en fermant les yeux les équipes de jeunes saboteurs enrôlées par Moscou, les spécialistes espagnols de la destruction scientifique rôdant la nuit, mitraillette à l'épaule vers vos transformateurs et vos barrages. Et comprenez enfin que votre nouvelle épreuve fait peut-être le complaisant aveuglement que vous avez si longtemps pris pour la forme la plus confortable du patriotisme.
Et c'était Philippe Henriot, le ministre de la Propagande de Pétain en mars 44, quelques mois avant qu'il soit assassiné par la résistance, quelques semaines aussi avant le débarquement en Normandie. Comment est-ce que la population que Henriot essaye de dresser contre l'action de cette résistance, notamment des réseaux, réagissait-elle? Est-ce qu'elle avait de la solidarité ou pas?
Au fur et à mesure que le gouvernement de Vichy s'est discrédité, l'opinion publique changeait. Je crois que les gens, ce qui leur faisait plus peur, c'était les bombardements que les sabotages, parce que le sabotage c'est quelque chose de ciblé, fait par une petite équipe, et dans certains cas, le cas des usines Peugeot, où il y a eu un arrangement direct entre la direction et des agents britanniques, on leur a dit, bon, vous comprenez, à chaque fois que vous bombardez, c'est les ouvriers, parce que vous aviez toujours des cités ouvrières autour des usines, c'est les ouvriers qui trinquent à chaque fois que vous bombardez, laissez-nous saboter à l'intérieur de l'usine, nous, on saura les endroits où il faut saboter, et ça évitera ces destructions massives. Donc, les gens, je pense, commençaient à se rendre compte que les sabotages étaient beaucoup moins dangereux que les bombardements qui par définition, peuvent tuer un peu n'importe
quoi. En revanche, l'activité de cette forme de résistance était dangereuse, vous le rappelez longuement dans votre livre, ils étaient traqués par la Gestapo, je crois même que la Gestapo a envoyé de faux parachutistes anglais, qui étaient en fait des Allemands parlant l'anglais, de manière à démanteler les filières. Mais c'était vraiment une vie quotidienne terrible, cette vie quotidienne des gens des réseaux, Rémy Koffer.
Faut être taillé pour, hein. Faut être taillé pour résister, parce qu'effectivement, vous avez quand même la trouille au vent tout le temps, et trouille que vous surmontez, où j'ai eu les confidences de nombreux résistants, je pense à une jeune femme qui a dit, moi j'ai eu la trouille tout le temps. Mmh. Les autres me donnaient l'impression de pas avoir peur, moi j'ai eu la trouille tout le temps.
On peut le comprendre quand on voit l'état des pertes, j'ai quelques chiffres sous les yeux, 8200 morts, je crois, 2500 disparus dans des camps ou dans les prisons, 7400 déportés survivants, c'est-à-dire 19000 personnes quand même. Et est-ce que le bilan était à la hauteur de ces pertes? Par exemple, le rôle, on dit que le rôle qu'ils ont joué en Normandie était essentiel, Rémy Koffer.
Ah bah c'est capital. Il n'y aurait pas eu de débarquement allié s'il n'y avait pas eu de renseignements émanant de la résistance, tout bêtement parce que les alliés n'auraient pas su où ils mettaient les pieds, et ni les Américains ni les Anglais ne se seraient engagés sur un terrain, une terre inconnue. Donc, sans renseignement, ils n'auraient jamais débarqué. Ça, c'est tout à fait clair. Et c'est vraiment l'honneur des réseaux de la résistance d'avoir joué cette part majeure dans le débarquement.
Tous les détails, je crois, effectivement, du mur de l'Atlantique étaient connus. Puis ils ont joué aussi un rôle au moment du débarquement, je suppose aussi, et dans l'action qui a été menée à l'arrière des plages, à l'arrière des troupes allemandes. Quel a été l'avenir ensuite de ces réseaux, des hommes de ces réseaux, Rémy Koffer? Qu'est-ce qu'ils sont devenus après la guerre? Parce qu'on en parle beaucoup moins, en fait, des hommes ou des femmes. On en parle beaucoup moins que des membres des importants qui ont fait de la politique, des mouvements.
Oui, souvent, ils ont joué un rôle moins important. Enfin, vous citiez tout à l'heure Marie-Madeleine Foucade, qui a continué à avoir une activité politique gaulliste, qui est un des artisans du retour du général aux affaires en 58. Mais beaucoup de gens des réseaux sont retournés à leurs activités habituelles, leur travail d'avant, sans demander grand-chose. Beaucoup ont joué un rôle, un peu comme Fourcade, dans le retour de Gaulle en 58. C'est souvent ignoré, mais il y a des tas de réseaux qui se réactivent. Parce qu'un réseau, c'est une petite famille. Un mouvement, c'est une très très grande famille. Un réseau, c'est une petite famille. Donc, vous allez éventuellement sonner à la porte d'un vieux copain, lui disant, dis donc, il faut faire quelque chose. Cette guerre d'Algérie, ça n'en finit pas. Il faut que les généraux reviennent.
Ah oui, ils ont continué.
Ça s'est réactivé à ce moment-là, beaucoup. Oui. Mmh.
Et est-ce que, justement, moi j'ai le sentiment aussi qu'on les a un petit peu oubliés aujourd'hui en France? Est-ce que leur histoire est beaucoup moins connue, en fait, que celle des grands mouvements comme Combat, Libération, Franc-Tireur?
Oui, je suis de votre avis. C'est pour ça que j'ai voulu aussi écrire ce bouquin, ce roman. Je pense que la résistance des réseaux est très méconnue, très ignorée.
Alors qu'ils ont contribué largement à la libération de la France, merci Rémy Koffer de nous avoir rappelé leur histoire sans laquelle la nôtre aurait été différente.
Ici Londres. Les Français parlent aux Français. Veuillez écouter tout d'abord quelques messages personnels. Les sanglots longs des violons de l'automne blessent mon cœur d'une langueur monotone.
This is the day and this is the hour. The sky is lightning. Lightning over the coast of Europe as we go in. And it's a great day.
La bataille suprême est engagée. Après tant de combats, de fureur, de douleur, voici venu le choc décisif.
Allons, BBC. Ici Pierre Lefebvre, qui vous parle de Normandie.
Je rappelle que mon invité Rémy Koffer est l'auteur d'un roman historique, Le réseau bucéphale, publié aux éditions du Seuil. Vous avez pu entendre des extraits des films suivants, L'armée des ombres, disponible en DVD chez Studio Canal, Jean Moulin d'Yves Boisset, disponible en DVD chez France Télévisions, et également des témoignages, vous avez entendu, des témoignages enregistrés lors de l'émission Les Premiers Résistants, diffusée sur France Culture le 25 août 1988. Toutes ces références sont disponibles par téléphone au 32 30, 34 centimes la minute, ou sur franceinter.com. C'était 2000 ans d'histoire. Merci à Antoine Viossa et Ludovic Asselot, Claire Destacan, Emmanuel Fournier et Léna Le Bourdonnec, et à notre réalisatrice Anne Comilac.